Je suis Sidibé Assa Traoré, professeur à l'Université de Bamako, exerçant à l'hôpital universitaire du Mali, service de médecine et d'endocrinologie. Bonjour, nous allons donc vous parler des exemples d'organisation des soins et conseils nutritionnels à l'hôpital du Mali par rapport à nos malades diabétiques. Nous nous sommes fixés des objectifs en faisant cette organisation des soins. Ces objectifs sont organisés en 4 points. Premier point, c'est préciser les besoins du participant, c'est-à-dire donc identifier le problème nutritionnel. Deuxième objectif, préciser les compétences à acquérir et cette acquisition va comporter qu'ils apprennent la notion de qualité du repas, relié à la quantité ingérée, autrement dit qu'ils puissent faire une assiette équilibrée, et qu'ils puissent utiliser les outils locaux de mesure. Troisième objectif, qu'ils puissent mettre en pratique la notion de portion alimentaire, leur permettant donc de mieux utiliser leur alimentation. Et quatrième objectif, modifier le comportement alimentaire en fonction des problèmes nutritionnels identifiés chez ces patients. Nous allons donc suivre le plan suivant. Premier point, décrire le lieu et la provenance des patients. Deuxièmement, donner le recueil des données. Troisièmement, poser notre diagnostic éducatif. Quatrièmement, pour montrer l'organisation de quelques séances éducatives et enfin terminer par une page de bibliographie. Donc, en ce qui concerne le lieu et la provenance des patients, tous les patients sont ceux qui ont été recrutés donc à l'hôpital du Mali. Et leurs critères d'inclusion, c'est tout simplement les patients vus en consultation externe ou les patients en hospitalisation directe, sans passer par la consultation. Chez ces patients, comment on fait notre recueil des données? Notre recueil des données va concerner deux éléments essentiels. D'abord, les caractéristiques des patients. Nous précisons leur situation familiale, s'ils sont des célibataires, des mariés. Cela peut être important dans la notion nutritionnelle qu'ils ont, leur âge, leur religion, leur goût, tout ceci pouvant jouer sur les qualités nutritionnelles. Nous essayons de connaître leur mode de vie, s'ils sont en foyer polygame ou monogame, cela pouvant jouer sur la possibilité d'avoir telle alimentation. Le rôle des décideurs est important. Parce que chez nous, les décideurs, c'est surtout la belle famille pour les dames, surtout la belle-mère ou le mari qui peuvent décider donc de la qualité et de la quantité de l'alimentation. Si ces patients mangent un plat commun, nous savons que ce plat commun ne permet pas parfois d'éviter certains nutriments. Mais essentiellement, leur connaissance sur l'alimentation. Point très important qui est l'élément parfois déterminant dans la qualité de l'alimentation. Nous essayons également de faire un bilan diététique personnalisé, très sommaire parce que nous n'avons pas de nutritionniste ni de diététicien, mais dont nous avons besoin pour essayer d'éduquer nos patients. Ce bilan diététique personnalisé porte essentiellement sur l'alimentation, son mode de cuisson, car nous savons que beaucoup de nutriments sont perdus par le mode de cuisson, le type d'alimentation, sa répartition s'il s'agit d'un repas par jour ou plusieurs repas par jour, et le mode de conservation. Mais également, chez ces patients, savoir s'ils font des prise alimentaire à la maison où on peut dire que la qualité nutritionnelle peut être un peu maîtrisée ou si leur préférence est les aliments de l'extérieur où la qualité est certainement moins bien contrôlée. Et également, si ces patients ont des troubles du comportement alimentaire, s'il s'agit de boulimiques ou bien de patients qui grignotent ou autres. Donc, ce petit bilan diététique personnalisé concernant l'alimentation est obligatoire à faire pour qu'on puisse avoir une idée dans comment changer éventuellement le mode alimentaire de nos patients. Après cela, donc, ce recueil des données, nous pouvons faire le diagnostic éducatif, c'est-à-dire que nous pouvons identifier le problème nutritionnel du patient. Et très souvent, ce problème nutritionnel porte sur quatre axes essentiels, qui est la reconnaissance du type d'aliment, le regroupement par qualité, c'est-à-dire s'il s'agit de glucides, de lipides, de protéines. Ces deux problèmes nutritionnels sont ceux qui se posent le plus souvent chez nos patients diabétiques. Mais également, comme problème éducatif, nous avons l'exemple de composition du repas complet, qui est souvent difficile à réaliser par nos patients, et surtout l'utilisation de la portion que nous leur montrons. Parfois également, le problème nutritionnel peut être l'action d'un type de repas sur la glycémie. Donc, à partir de l'identification de ces problèmes nutritionnels, nous allons faire donc organiser les séances éducatives. Donc, comment ces séances éducatives sont organisées? Tout d'abord, nous apposons le titre de la séance ou de l'atelier, en fonction bien sûr du cible précis qui est fonction du bilan éducatif. On précise le lieu, c'est la salle d'ITP du service de médecine et d'endocrinologie de l'hôpital du Mali. Le nombre de participants, il s'agit en général de 4 à 8, mais souvent nous acceptons également la famille ou la personne qui s'occupe de l'alimentation du patient diabétique. Les intervenants n'ayant ni nutritionniste ni diététicien, c'est souvent des médecins, des internes du service et les infirmiers qui interviennent dans ces séances éducatives. Leur durée, en général, c'est 2 heures en moyenne. Souvent, ça varie de 1 heure à 3 heures selon le bilan éducatif. La fréquence de la séance, 1 à 2 séances. Très souvent, on fait 2 séances. Nous décrivons la méthode. Souvent, c'est des méthodes en groupe et participatives. Les outils, nous les mettons sur place et nous les décrivons. Nous faisons des pauses. Cela améliore la convivialité, mais également permet la réflexion avant la reprise des séances. Après les séances, on fait des débriefings à chaud. Il y a une évaluation de la séance par tous les participants. Et après tout ça, on fait une transmission du dossier éducatif commun et qui est mis dans le dossier des patients. Alors, comment sont exercées ces pratiques, ces travaux pratiques? Donc, en prenant le premier thème qui est la reconnaissance du type d'aliment et le regroupement par qualité, nous avons donc des planches que nous étudions avec les patients et nous savons tous qu'une alimentation équilibrée doit comporter des protéines, des glucides et des lipides. Donc, pour qu'ils reconnaissent ces différents éléments essentiels à l'alimentation, nous leur montrons des planches. En ce qui concerne les protéines, nous leur disons et leur montrons leurs sources. Sources d'origine animale, la viande, le poisson, le poulet, les œufs, le lait, communément présents dans les plats en général, mais parfois également le gibier, les escargots, les sauterelles, les chenilles qui peuvent constituer des sources de protéines animales. Les protéines d'origine végétale sont chez nous le sorgho, le riz, le maïs, les haricots, le gombo et parfois dans certaines zones le blé, les pois et les lentilles. Nous leur expliquons que 1 gramme de protéines apporte 4 kilocalories, qui va être donc utilisé dans la composition de l'assiette équilibrée. En ce qui concerne les glucides, source d'énergie essentielle, nous avons les céréales, dont nous avons déjà parlé, les tubercules, comportant les yams, les maniocs, les plantains, les patates douces, la pomme de terre, les légumes tels que les gombos, les choux, les aubergines, les carottes que nous trouvons dans nos contrées, les fruits, selon les saisons, la banane, les mangues, les papayes, les oranges, les mandarines, les ananas, et bien sûr le sucre, qui est l'aliment glucidique de référence. Et nous leur apprenons que 1 g de glucides apporte 4 kcal. En ce qui concerne les lipides, leur source, c'est essentiellement les huiles, palme, arachide, beurre de karité que nous avons, mais également, il peut s'agir d'avocats, de graines de sésame, de graines de coton, de baobab, et ces lipides sont très utilisés dans nos plats, et nous leur apprenons que 1 g de lipides apporte jusqu'à 9 kcal. Donc, il va falloir en tenir compte dans la composition d'une assiette équilibrée. Donc, ça, c'est un exemple d'atelier, d'exercice concernant la reconnaissance des aliments et quelle est leur place dans l'énergie, la totalité de l'énergie absorbée dans la journée. D'autres exercices peuvent concerner l'exemple de composition du repas complet avec utilisation de la portion. Donc, dans ces cas-là, nous leur montrons le type de repas en assiette équilibrée. Assiette équilibrée par personne pour un repas, comportant donc les fibres, les glucides, les protéines, les lipides, avec des quantités à ne pas dépasser si possible. Et l'assiette équilibrée par personne pour 3 repas journaliers, nous les apprenons à donc calculer et à se rendre compte qu'une assiette équilibrée, selon la personne et son poids, peut varier entre 1140 à 2040 kcal par jour. Et pour ce faire, nous utilisons des outils et nous leur apprenons à utiliser les portions. En effet, en fruits et sucre, par exemple, nous leur montrons des portions. Une portion fait 15 g de glucides, donc 60 kcal. En ce moment, ils savent que une portion en fruits tels que l'ananas consiste à 1/4 d'ananas, à une orange ou à un sachet comportant une ou deux tranches de mangue avec une banane ou bien de la papaye. Ou bien que cette portion peut correspondre à une cuillerée à soupe de sucre. Donc en matière de fruits, nous leur montrons donc ce que veut dire une portion et ce que cela comporte comme calories dans l'alimentation. Nous leur montrons également les louches, qui sont nos instruments de mesure assez faciles, pratiques et qui est disponible. Et ces louches ou ces bols vont servir par exemple à utiliser la bouillie. La bouillie, ce sont des céréales en général, auxquels on ajoute du lait, que ce soit le lait frais ou du sucre, ou du lait caillé et sucre. Alors nous leur montrons qu'une louche de céréales a comme poids 25 g et apporte 100 kcal. Par contre, un bol que l'on voit ici, qui correspond à 3 louches, va donc apporter à peu près 300 kcal. Et en général, cette bouillie, c'est ce qui est utilisé dans le petit déjeuner, dans nos contrées, auquel on pourra ajouter donc quelques fruits pour faire la quantité de calories indispensables au petit déjeuner. En ce qui concerne le riz, voilà les outils que nous leur montrons. Le riz et le couscous mille. Donc le riz, c'est ce qui est utilisé très souvent dans le repas du midi, mais également le soir. Et nous leur montrons par exemple que une poignée de femmes correspond à 20 g de riz. Une poignée d'hommes va correspondre à 70 g de riz et ils ont les images. Et nous savons que nous leur montrons également que 100 grammes de riz correspond à peu près à 130 kilocalories, donc à tenir compte dans la composition de l'assiette. Et nous leur montrons donc les exemples d'assiettes de riz. Un repère B, vous voyez que 100 grammes de riz, ça correspond à peut-être un quart de l'assiette. Par contre, le repère H, c'est toute l'assiette, une assiette pleine, va correspondre à 400 grammes de riz, donc qui vont aller à peu près à entre 500 et 550 kilocalories, auxquelles ils vont tenir compte également pour faire leur assiette équilibrée. Le couscous de ville également est très utilisé. Là également, on leur montre les quantités. Le repère B, 100 grammes, qui va apporter 130 kilocalories, jusqu'au repère H, où nous avons 400 grammes, donc qui va apporter donc à peu près 500 à 550 kilocalories. Et ce couscous est souvent utilisé le soir, mais parfois également à midi. Donc, avec ces exemples d'outils, d'assiettes et les quantités, les repères visuels, ils arrivent donc à un peu mieux comprendre les quantités énergétiques qu'ils utilisent dans la journée. Puisqu'on leur demande de prendre des fibres, si on prend l'exemple de la salade n'amènera pas de glucides, mais le problème essentiel de la salade, c'est donc la sauce, l'assaisonnement. Et là, on leur montre que cet assaisonnement, il faut utiliser, pour cet assaisonnement, il faut utiliser les cuillerées à soupe. Et on sait qu'une cuillerée à soupe de l'assaisonnement va apporter 75 kilocalories. Et donc, on leur montre le repère B, où on a une cuillerée à soupe, au repère H, où ils peuvent utiliser jusqu'à 4 cuillerées à soupe, avec donc en conséquence le nombre de calories qui augmente. Alors, les sauces, que ce soit le riz ou le couscous, en général sont consommées avec des sauces. Et dans nos contrées, le gras est très utilisé. Ce gras, ça peut être du gras provenant de l'arachide, ça peut être du gras provenant également des produits industriels tels que de la mayonnaise que l'on met pratiquement dans toutes les crudités chez nous actuellement. Donc pour ce gras, nous leur conseillons d'utiliser les cuillères à soupe ou les cuillères à café. Une cuillerée à soupe va leur amener jusqu'à 135 kilocalories, alors qu'une cuillerée à café va apporter 45 kilocalories. Donc, quand ils font des sauces à base d'arachide ou quand ils utilisent d'autres gras tels que la mayonnaise, le beurre, etc., ils devraient utiliser donc les cuillerées à soupe ou les cuillerées à café en fonction de ce qu'ils ont déjà dans leur assiette. Donc, ces éléments simples et ces outils accessibles peuvent permettre de calculer, bien sûr de manière approximative, l'énergie totale amenée dans un plat, dans une assiette, pour un repas journalier. Donc, nous proposons cette bibliographie pour compléter ce cours et nous vous remercions d'avoir écouté cet exemple d'organisation des soins par rapport à la nutrition chez les patients diabétiques que nous avons à l'hôpital du Mali. Je vous remercie pour votre écoute.